بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الليلة هي ليلة 22 من شهر جماد الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو الثالث في شرح ستة مواضع من السيرة، رحم الله مؤلف هذه الرسالة. Nous sommes le 22 mars 2014 et ceci est le troisième cours de cet écrit, six événements dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons entrer aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans le troisième événement. قال المؤلف رحمه الله الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما إلى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, entre dans le troisième événement et dit: le troisième événement, c'est l'histoire de la récitation du prophète صلى الله عليه وسلم de la sourate An-Najm, les étoiles, en présence des polythéistes, des associateurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a récité cette sourate, alors qu'il se trouvait près de la Kaaba, il y avait en sa présence les associateurs de Mecca, de la Mecque. Ils ont donc écouté sa récitation du Coran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à ces versets dont la traduction est « Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette autre troisième ?» Donc ce sont des versets du Coran dans cette surah Al-Najm où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à trois des divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par le peuple de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces versets. Au moment où il est arrivé à ce passage, à ces versets particulièrement de cette surah, puisqu'il l'a récité entièrement, Ash-Shaytan a insufflé dans les oreilles des associateurs qui étaient présents que ce qui était voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est qu'on pouvait demander l'intercession à ces divinités en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Le peuple de Quraysh qui était présent a entendu une voix qui en fait venait de Shaytan et ils ont cru qu'elle venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette voix disait, tout de suite après avoir cité ces trois noms de divinités, ce sont les anges élevés et certes, on espère leur intercession. Donc, ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a prononcé ces paroles. En pensant cela, ils ont été pris par la joie et ont dit, c'est exactement ce que l'on veut. C'est-à-dire, nous voulons qu'ils fassent les éloges de nos divinités. Et nous savons que ces divinités que nous adorons en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous sont d'aucune utilité ni d'aucune nuisance, si ce n'est qu'elles nous rapprochent d'Allah azza wa jal. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé au dernier verset, fasjudu lillahi wa'budu, ce qui veut dire prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le, il s'est prosterné. Quraysh, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles qui en fait étaient insufflées par Shaitan, se sont prosternés avec lui. Et alors, l'information s'est répandue. Elle s'est répandue et les gens ont cru qu'il y a eu une réconciliation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de Mecca, les polythéistes. Alaykoum salam. À un point où cette information s'est répandue jusqu'à la terre de l'Habasha, l'Éthiopie actuelle, où avait émigré une partie des premiers musulmans à cause des persécutions qu'ils subissaient à Mecca. Après avoir entendu cette fausse rumeur, ils se sont empressés de rentrer à la Mecque, en pensant qu'il y a eu réconciliation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de Mecca. Et quand ils sont arrivés à Mecca, ils se sont aperçus qu'en fait, toutes ces informations étaient fausses et qu'il n'y a aucune réconciliation entre les monothéistes, les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les polythéistes, adorateurs des idoles. Ensuite, les kuffars de Quraysh sont devenus pires qu'ils ne l'étaient avant avec les monothéistes, encore plus méchants et plus sévères. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as prononcé ces paroles, nous t'avons entendu, nous t'avons écouté, et tu as dit que ces divinités, on peut en espérer l'intercession en dehors d'Allah azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été pris par la peur. Comment aurait-il pu prononcer de telles paroles? Et Allah azza wa jal a révélé un verset pour lui expliquer qu'en fait il n'a pas prononcé ces paroles et qu'il est désavoué, innocent de tout ça, sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était que des murmures de shaitan dans le but de faire dévier les serviteurs d'Allah azza wa jal vers la religion du polythéisme. L'auteur a dit, celui qui comprend bien cette histoire, on n'est pas encore entré dedans dans son détail, puis doute quant à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne fait pas la distinction entre celle-ci et la religion des associateurs, alors qu'Allah l'éloigne, particulièrement s'il comprend que ce qui était voulu par ses paroles, les paroles insufflées par Shaitan, ce sont les anges. Le shir, hafidhahullah, qui commente ses paroles, dit, donc il nous explique que cette histoire est celle qui a eu lieu et qui fait partie des histoires de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est connue sous le nom de Qissatul Gharaniq, l'histoire des Gharaniq. Gharaniq, ce sont les anges. Et comme l'auteur l'a cité, c'est l'histoire au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le Coran à la Mecque en présence des associateurs et de quelques musulmans. Lorsqu'il est arrivé à réciter ces versets, voyez-vous Al-Lat, Al-Uzza et Manat, cet autre troisième. Donc ce sont les versets 19 et 20 de Surat An-Najm. Ces trois divinités citées sont les plus grandes divinités de Quraysh. Quant à la première, Al-Lat, le Cheikh dit, c'est une divinité qui se situe à Taif. C'est une divinité qui se situe à Taif et c'était à la base un homme pieux qui donnait de la nourriture aux pèlerins. C'était un homme pieux qui donnait de la nourriture aux pèlerins. Quand celui-ci décéda, les associateurs de Quraysh ont décidé de se recueillir autour de sa tombe pour y rechercher la bénédiction, comme les associateurs le font quand ils recherchent la bénédiction d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était une pratique païenne de l'époque anti-islamique. Ils disaient, nous le faisons car il est pieux et par lui nous recherchons l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la divinité Al-Uzza, c'est une idole qui se situe à la Mecque, proche de Arafat, là où le Hajj est accompli, et qui en fait regroupe un certain nombre d'arbres, donc ce sont plusieurs arbres, sur lesquels il y a un édifice duquel ils ont recherché en dehors d'Allah Azza wa Jal la bénédiction. Donc Al-Uzza, c'est le nom qu'on a donné à plusieurs arbres qui se situent proches de Arafat, où les gens se recueillent pour prendre la bénédiction au lieu de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième divinité citée par Allah, c'est Manat. Manat est une divinité, une idole, qui se situe entre la Mecque et Médine, plus proche de la ville de Médine. Et cette divinité était en la possession des deux tribus de Médine, qu'on appelle Al-Aws et Al-Khazraj, qui plus tard deviendront Al-Ansar. Et quand ils accomplissaient le pèlerinage, ils prenaient cette divinité comme point de départ, ce qu'on appelle le miqat. Celui qui a fait l'Umra ou le Hajj sait qu'il doit entrer en état de sacralisation à partir d'un endroit. Cet endroit s'appelle le miqat. Ces associateurs qui accomplissaient le Hajj, alaykoum salam, avaient pour point de départ l'endroit où se situait Manat. Allah subhanahu wa ta'ala a donc cité ces trois divinités en leur disant, avez-vous vu Al-Lat, Al-Uzza et Manat, cette autre troisième? Cette autre troisième, c'est une formule utilisée par Allah Azza wa Jal pour le dénigrer. Comme si qu'on disait, tu as vu un tel et le troisième qui était avec eux, un peu pour le rabaisser. Allah Azza wa Jal s'adresse à Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Quand il est arrivé à la Mecque, il a détruit ses idoles. Et Allah s'est adressé à eux en leur disant, avez-vous vu vos idoles? Al-Lat, Al-Uzza et Manat? Est-ce qu'elles vous ont été d'une quelconque utilité? Est-ce qu'elles vous ont soutenu? Est-ce qu'elles vous ont secouru? Où sont-elles? Où sont-elles? Donc, Allah Azza wa Jal a voulu montrer que ces divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal ne sont d'aucune utilité et ne peuvent rien faire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate et est arrivé à ce passage de cette sourate, le shaitan a insufflé des murmures dans les oreilles des associateurs de Quraysh. Au moment où ces trois noms ont été cités, ils ont entendu une voix qui émanait de shaitan et qui leur disait « Ce sont les anges élevés et d'eux on espère l'intercession » en leur faisant croire que l'auteur de ces paroles était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui en vérité n'était qu'une parole de shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant de cette murmure du shaitan. Mais quand les associateurs l'ont entendu, ils se sont remplis de joie, ont cité le nom de leur divinité et ont dit, Muhammad a cité en bien nos divinités, c'est exactement ce que nous recherchons. Nous savons qu'elles n'ont aucune capacité de créer ou de donner la subsistance, mais on recherche chez eux l'intercession. Et le prophète, et donc ils disent, et Mohammed les a cités en bien et a dit qu'on peut espérer d'eux la miséricorde. Ce qui les a poussés à se prosterner avec lui une fois arrivés à la fin de la sourate, où Allah Azza wa Jal dit, Fasjudu lillahi wa'budu. Et prosternez-vous pour Allah et adorez-le. Ils se sont prosternés avec lui, en pensant que c'est lui qui a dit qu'on pouvait les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un point où même Al-Walid ibn al-Mughira, un des associateurs qui avait atteint un âge très avancé, était dans l'incapacité de se prosterner. Mais il était tellement heureux qu'il a pris de la terre et il s'est abaissé, il a posé la terre sur son front pour faire le minimum possible de prosternation. Puis cette information s'est répandue. Elle s'est répandue très rapidement. On croyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réconcilié avec les associateurs. Et on a cru, c'est-à-dire qu'eux ont cru, qu'il avait approuvé l'adoration de ces divinités, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, avec pour but de leur demander l'intercession. Jusqu'à ce que cette information est arrivée à Al-Habasha, en Éthiopie, où il y a eu la première émigration des musulmans persécutés. Ils sont revenus à la Mecque, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réconcilié, pour s'apercevoir en fait que cette information était infondée et qu'elle n'était pas réelle. Donc les associateurs sont devenus encore plus durs et sévères à l'égard des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des gens dire qu'il a prononcé ces paroles, il a été pris par la peur. Il a été fortement attristé et touché, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets de Surat al-Hajj pour démentir ces dires et désavouer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat al-Hajj, Allah azza wa jal dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ce qui veut dire approximativement: et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager ni de prophète, sans que quand celui-ci se mette à réciter, le diable insuffle des murmures pendant sa récitation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un prophète venait et récitait la parole qu'Allah lui révélait, il y avait un shaitan qui venait et qui insufflait des murmures pour que les associateurs qui écoutent ces paroles d'Allah pensent que ces murmures viennent d'Allah Azza wa Jal. En fait, elles venaient du shaitan. Ici, Allah Azza wa Jal a consolé son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: tu n'es pas le premier à rencontrer cette situation. Nous n'avons pas envoyé un messager avant toi, ni un prophète, sans que quand il se mette à réciter, le diable l'insuffle des murmures pendant sa récitation. Mais Allah Azza wa Jal nous montre que le vrai est toujours au-dessus. Et que même si la nuit est longue, il faut absolument que le soleil se lève. C'est-à-dire que quand le faux est répandu, le vrai arrivera un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à la suite de ce verset? فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ. Puis Allah dissipe ce qui a été émis par le shaitan, comme murmure et insufflation. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Puis Allah démontre très clairement ses signes ou bien ses versets, subhanahu wa ta'ala. C'est tel fut le cas pour cette histoire. On a pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles un instant, puis Allah azza wa jalla a révélé des versets pour innocenter son prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrer qu'il n'a rien à voir avec ses prétentions. Le cheikh a dit: فَأَبْطَلَ اللَّهُ مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَةِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Allah a donc rendu caduque ces murmures insufflés par le shaitan pendant la récitation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire a été rapportée par plusieurs, mais il faut savoir que les savants ont divergé quant à l'authenticité de celle-ci. Parmi les savants qui ont vu que cette histoire n'est pas authentique, l'imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dans son commentaire de ce verset et dans son livre aussi Al-Bidaya wa Al-Nihaya, son livre d'histoire très connu, le début et la fin. Si ce n'est que l'imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dans son livre Fathul Bari, le commentaire du recueil authentique de hadith de l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, a cité que cette histoire a été racontée par plusieurs personnes. Elle est venue de différentes voies qui la rendent authentique. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle l'auteur a cité cette histoire, c'était de montrer que les associateurs disent « Nous n'adorons ces idoles non pas parce que nous croyons qu'elles ont le pouvoir de créer, de nous être utiles, de nous octroyer la subsistance, mais nous ne les adorons que pour qu'elles nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Allah a réfuté leur ambiguïté et l'a dissipé, comme il nous dit dans le verset. Subhanahu wa ta'ala. Les associateurs ont été heureux quand ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles. Ils ont donc cru que le prophète alayhi salatu wassalam leur a permis de demander l'intercession aux divinités en dehors d'Allah azza wa jal. Puis Allah a montré qu'en fait c'est un acte qui est interdit parce que l'adoration c'est le droit d'Allah azza wa jal. On ne doit adorer qu'Allah et personne d'autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ses associateurs en disant وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ce qui veut dire, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est d'aucune utilité, ni ne les nuit en rien, ni ne les nuisent en rien, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ce qui veut dire, et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés disent. Donc, il n'y a pas disent, mais c'est ce qui est voulu par Allah Azza wa Jal. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah Azza wa Jal a donc cité, il a donc cité cet acte et l'a jugé comme étant un acte d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez voir pourquoi exactement est-ce que l'auteur a cité cette histoire et ça arrive inshallahu ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan a dit hadha qad jara ma'a ar-rusul qabla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa jara alayhi mithlu ma jara 'ala ar-rusuli min qablihi. Cette chose a eu lieu avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mais elle a aussi lieu avec les prophètes l'ayant précédé, sallallahu alayhi wassalam. Il y a en cela une réfutation, une preuve qui montre le caractère caduque de l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal, comme l'adoration des tombes qu'on appelle la tombolatrie. Ceux qui adorent les tombes et qui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ce qui est voulu par le cheikh ici, c'est de comprendre que les associateurs sont heureux quand on décrit comme étant bonnes leurs actes, qu'on décrit comme étant bons, pardon, leurs actes. À partir du moment où ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces paroles-là, ils se sont dit, nous sommes satisfaits. C'est-à-dire, il n'y a plus d'animosité. Il n'y a plus de problème entre les musulmans et les polythéistes. Pourquoi ? Parce que les musulmans ne critiquent plus nos divinités et notre adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel est le cas de ceux qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que on ne critiquera pas l'adoration qu'ils ont pour autre qu'Allah azza wa jal, qui relève de l'association majeure qui fait sortir de l'islam et qui est la pire des injustices, il n'y aura aucun problème, aucune hostilité. Mais quand on critiquera le culte des associateurs, des païens, des polythéistes, alors il va y avoir une hostilité. Et c'est ce qu'on voit ici. Ils se sont dit, c'est bon, Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'est pas notre ennemi, puisqu'il ne critique pas nos divinités. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le quatrième événement, al-mawdi'u al-rabi', qissatu Abi Talib, فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Le quatrième événement, c'est l'histoire de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Celui qui comprend parfaitement cette histoire et la médite, et qui voit que Abu Talib a approuvé le monothéisme et l'a jugé bon, il a d'ailleurs encouragé les gens à être monothéistes. Il a jugé idiots les polythéistes qui adoraient autre qu'Allah. Il a aimé ceux qui se sont soumis à Allah Azza wa Jal et ont délaissé le shirk. Puis, il a dépensé de son temps, de sa vie, de son argent, de ses enfants, de sa tribu, dans le but de secourir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. Abu Talib était l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était encore dans le ventre de sa mère, son père Abdullah est mort. Puis quand il est né, sa mère l'a élevé. Sa mère c'est Amina bint Wahb. Amina a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 6 ans, 3 mois et 10 jours. Comme l'a cité Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et d'autres ont cité moins que cela. Quoi qu'il en soit, sa mère décéda. Suite à ce décès, c'est son grand-père Abdul Muttalib qui a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 8 ans et lui ensuite est mort. Mais juste avant de mourir, il a donné la garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son fils Abu Talib. Abu Talib, c'est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. C'est également le frère de Al-Abbas et également le frère de Hamza. Hamza al-Abbas sont les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont croyants. Hamza a un plus, c'est qu'il est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il a bu le même lait de la femme qui s'appelle Thuwayba. Quoi qu'il en soit, le prophète alayhi salatu wa sallam a été élevé par son oncle Abu Talib. Il l'a pris en charge, il l'a éduqué, il l'a aidé dans son orphelinage quand il était orphelin sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand la mort est venue à lui et qu'il était à l'agonie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et l'a appelé à l'islam, mais il a refusé l'islam. Il a secouru le messager d'Allah, il l'a protégé, il a cru que la religion de l'islam était vraie. Il a aimé les compagnons qui se sont convertis à l'islam. Il a jugé idiots les polythéistes, les associateurs. Et il a vanté les mérites de l'islam. Il a vanté les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il est mort sur le shirk. Pourquoi est-ce que l'auteur nous cite cette histoire? Pour nous montrer que tout cela est insuffisant et n'est pas valable tant que la personne ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que la personne n'est pas soumise à Allah, ses prétentions, ses sentiments, ses paroles, toutes ces choses-là ne lui seront d'aucune utilité, tel fut le cas de Abu Talib lorsqu'il est mort. Donc il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a même défendu le jour de Al-Muhasara, le jour du blocus, quand les kuffars se sont mis ou ont assiégé un des quartiers de la Mecque et ils ont empêché les vivres d'arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où les compagnons ont souffert de la faim. Ils ont été frappés par la famine. Abu Talib lui-même était concerné. Il a patienté avec les sahaba, avec le prophète alayhi salatu wa sallam, et malgré tout ça, il n'est pas entré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit que La sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal n'a pas guidé à l'islam Abu Talib, c'est qu'il était reconnu chez son peuple comme un grand homme. Mais s'il entrait dans l'islam, cette grandeur qu'il avait auprès de son peuple allait tomber des yeux des gens, et à ce moment-là, il ne sera plus écouté, il ne sera plus respecté. Et s'il n'est plus écouté, plus respecté, les gens qui ne touchaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour lui auraient atteint le prophète alayhi salatu wa sallam et l'auraient touché d'un mal. Donc quand il est mort, juste avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir. L'histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari. Il lui a dit: « Oh mon oncle, ya am, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Oh mon oncle, prononce cette parole, la ilaha illallah. C'est une parole avec laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal. Je pourrais intercéder pour toi. Je pourrais demander à Allah de te pardonner. Je pourrais demander à Allah de t'effacer tes péchés, de te faire entrer au paradis. Il y avait en sa présence beaucoup parmi les associateurs qui lui disaient: Atarrabu an millati Abd al-Muttalib, notamment Abu Jahl. Abu Jahl, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Nous avons Abu Jahl, Abu Lahab, qui sont mécréants. De l'autre côté, nous avons Al-Abbas et Hamza, qui sont croyants. Ce sont tous ses oncles. Mais les deux mécréants, eux-mêmes se divisent en deux. Le mécréant qui l'a soutenu, Abu Talib, et le mécréant qui était son pire ennemi, Abu Jahl. Pendant qu'Abu Talib était à l'agonie, Abu Jahl lui a dit: vas-tu prononcer cette parole et délaisser la religion de Abd al-Muttalib, la religion du shirk? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré. Et lui aussi a réitéré. Abu Talib allongé regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et regarde de l'autre côté son frère Abu Jahl. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il meurt sur la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire il meurt sur la religion du polythéisme. Et il décéda donc en étant polythéiste, alors que sa conviction c'était que l'islam était la religion de vérité. Il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était convaincu de son message. Qu'est-ce qui nous apprend ici? Que d'être convaincu de l'islam, d'être convaincu de toutes ces choses, n'est d'aucune utilité si cela n'est pas suivi de la mise en pratique de l'islam. Lui, il sait que l'islam, c'est la vérité, mais il refuse de prononcer la parole qui va faire de lui un associateur. Pour quelle raison? Il a écrit des vers poétiques avant sa mort, dans lesquels il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Ce qui veut dire: et j'ai très certainement su que la religion de Mohammed fait partie des meilleures religions que l'on ait révélées à l'humanité. Alaykum salam. Puis il dit: وَلَوْلَا الْمَلَامَةَ وَأَوْحِذَارَ مَسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. Donc il s'adresse au prophète dans un poème et il lui dit: n'eût-ce été la crainte que j'ai qu'on fasse mes critiques ou qu'on m'insulte, tu m'aurais vu te suivre. C'est ce qui est voulu de ces versets. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti et a dit: la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Très certainement, j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur tant qu'on ne me l'interdit pas. C'est alors qu'Allah azza wa jalla a révélé ce verset: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ce qui veut dire: il n'appartient pas à un prophète et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon en la faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches, cela après qu'il leur soit clairement apparu qu'ils font partie des gens du feu. Donc ici, à partir de ce moment-là, Le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu l'interdiction formelle d'implorer le pardon en la faveur des associateurs, fussent-ils ses proches, même s'ils sont ses proches. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé au sujet de son oncle Abu Talib: Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ce qui veut dire: certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Azza wa Jalla. Dans tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse. Si Allah guide une personne, il y a une sagesse. Si Allah en égare une autre ou ne lui accorde pas la guider, c'est qu'il y a une sagesse. فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ مَدْحَ الْإِسْلَامِ وَمَدْحَ الرَّسُولِ وَاعْتِقَادَ أَنَّ الْإِسْلَامَ حَقٌّ وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعِ لِلرَّسُولِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Cela nous montre très clairement que faire les éloges de l'islam, du messager d'Allah, faire les éloges de la croyance islamique sans accompagner cela du suivi n'est d'aucune utilité. Mais il faut absolument le suivi et la mise en pratique. Tel était le cas de Abu Talib. Il a cru en la véracité de l'islam, du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a traité d'idiots les associateurs. Il a aidé avec son temps, son énergie, son physique. Il a souffert avec le prophète, sallallahu alayhi wasallam. Où est-ce qu'il est? Il est dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soumis à Allah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a rapporté selon Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été voir le prophète pour lui dire: Ya Rasulallah, hal nafa'ata Aba Talibin bi shay, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Ô messager d'Allah, as-tu été d'une quelconque utilité pour ton oncle Abu Talib? Certes, il t'a entouré et il se mettait en colère pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Na'am, huwa fi dahdahin min nar, wa lawla ana la kana fi darkil asfali min an-nar. Le prophète a dit: oui, il est dans une petite quantité de feu, c'est-à-dire qui atteint ses chevilles, qu'on appelle en arabe dahdah. Il est dans une petite quantité de feu. Sans moi, il aurait habité le plus bas fond de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jalla a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour son oncle afin qu'il ne soit pas châtié. Et ici, il n'y a pas d'amalgame à faire entre ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam et la prétention qu'il est permis d'invoquer en la faveur des associateurs. Car le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a pas eu le droit de demander pardon pour lui. Et il n'a pas eu le droit de demander à Allah de le sortir de l'enfer, et c'est ce qui est interdit. Mais il a eu un droit qui lui est propre et qui lui est particulier, c'est de demander à Allah Azza wa Jal de diminuer quand même son châtiment, puisqu'il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc impérativement suivre, se soumettre à Allah Azza wa Jal, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon les prétentions ne seront d'aucune utilité pour la personne qui les prononce. Wallahu jalla wa ala, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit: Inna allaha yu'ayyidu hadha ad-din bil-rajul al-fajir. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. Il dit: certes, Allah soutient sa religion par un homme pervers. Est-ce que ça veut dire qu'Allah aime cet homme? Loin de là. Mais Allah Azza wa Jal peut utiliser quelqu'un de mauvais pour soutenir sa religion. Et ça ne voudra jamais dire qu'Allah aime ce même homme. Vous avez compris? Tel a été le cas de Abu Talib, qui a été utilisé par Allah Azza wa Jal pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a aussi dit: قال عذابي أصيب به من أشاء. Il a dit: je touche de par mon châtiment ou avec mon châtiment qui je veux. Wa rahmati wasi'at kull shay. Et ma miséricorde a englobé toute chose. Qui sont ceux à qui on fera miséricorde? Fasa aktubuha lil ladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladhina hum bi ayatina yu'minun al ladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrat wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه عليكم السلام ورحمة الله أولئك هم المفلحون. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous enseigne très clairement qui sont ceux qui vont bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que ce sont ceux qui auront des prétentions ou bien ceux qui mettront en pratique? Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire ma miséricorde a englobé toute chose, je la destinerai à ceux qui étaient pieux, qui s'acquittaient de l'aumône, ceux qui étaient croyants et qui suivaient le messager prophète illettré, qu'ils trouvèrent inscrit dans leur livre, la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et interdisent et illicite les mauvaises, et il dégage d'eux le fardeau qui pesait sur leur dos. C'est-à-dire, quand ils étaient égarés, ils étaient dans le mal, ils étaient dans les angoisses, dans les soucis, et quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, il les a guidés par la grâce d'Allah Azza wa Jal vers la lumière. Ceux donc qui ont cru en lui, l'ont soutenu, secouru et suivi la lumière qui a été révélée à lui, ceux-là auront le succès. Ceux-là auront le succès. Donc, il faut impérativement comprendre que celui qui vante les mérites de l'islam, qui loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que l'islam est la vérité, qui aime l'islam, qui dit aimer l'islam, tout cela n'est d'aucune utilité tant qu'il ne s'est pas soumis concrètement. Tant qu'il ne s'est pas soumis concrètement. Sinon, le premier croyant aurait été Abu Talib, qui a donné toute sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit « ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. Donc ici l'appel à méditer sur l'état et la situation de Abu Talib, qui a enduré et qui a patienté dans les douleurs les plus intenses avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne s'est pas désavoué de la religion des polythéistes. Il ne s'est pas désavoué de la religion des polythéistes. Et il a dit que la cause de cela, c'est la peur des reproches. ثُمَّ مَعَ قَرَابَتِهِ وَنُصْرَتِهِ إِسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةِ. Puis, malgré la proximité qu'il avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était son oncle, malgré le fait que le prophète a demandé le pardon d'Allah pour lui, regardez tout ce qu'il y a. Il dit que l'islam est la vérité. Il secourt le prophète toute sa vie. Il aime les musulmans. Il traite d'idiots les associateurs. Il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demande le pardon d'Allah pour lui. Et avec tout ça, où est-ce qu'il est? Il est dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à l'acte, il ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tirons comme leçon qu'il est insuffisant d'approuver ou d'attester avec la bouche si il n'y a pas le suivi avec et la mise en pratique. Donc, le shaykh a dit « وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكْ فَإِنَّهَا أُولَى الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفار ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل كما قال تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. À partir de là, alaykoum salam, ces gens-là qui prient, jeûnent, qui atteste que la seule divinité méritant le culte est Allah, et que Mohammed est son messager, qui peut-être même lutte pour Allah Azza wa Jal, mais ne délaisse pas le shirk, que ce soit autour des tombes ou autres, en leur demandant le secours en dehors d'Allah, en immolant pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ces gens-là, tous leurs actes leur sont inutiles. Ils leur sont inutiles puisqu'ils n'ont pas délaissé le shirk. Et quand Abu Talib n'a pas délaissé le shirk, tous ses actes lui ont été d'aucune utilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui veut dire « On t'a certes révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu associes, tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. » Donc tant qu'il ne s'est pas désavoué de l'association et des associateurs, il ne lui est d'aucune utilité de prétendre. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا بمال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى والضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. Et pour conclure, il dit, ce qui t'éclaircit plus ce point-là, c'est que si on connaît l'existence d'un homme que celui-ci se trouve à Al-Basra, ici il va parler de choses de son époque. Al-Basra, c'est Bassora en Irak, ou bien Al-Ahsa. Al-Ahsa, c'est une contrée qui se situe dans la péninsule arabique. Pour être un peu plus proche, au jour d'aujourd'hui, ça serait proche de Riyad. Si on connaît une personne qui aime la religion et les musulmans sans apporter le secours à la religion par sa main, par son argent, et sans avoir les mêmes excuses qu'avait Abu Talib. Abu Talib, lui, il n'était pas croyant. Et pourtant, il a secouru le din. Il a secouru la religion d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors de quelqu'un qui ne secourt pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui comprend la réalité ou la situation aujourd'hui de beaucoup de ceux qui prétendent être dans la religion correcte? Celui qui médite tout cela va faire la distinction très clairement entre la guidée et l'égarement et va voir combien est mauvaise la compréhension de beaucoup de gens, malheureusement. Ce que ici l'auteur veut, ce sont certaines personnes de science de son époque qui ont été connues pour la vérité, pour le suivi de la vérité. Ces personnes ont connu le monothéisme, ont connu le caractère caduque du polythéisme et de l'association. Et avec cela, ils n'ont pas fait leur obligation d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas ordonné aux gens le monothéisme. Ils ne leur ont pas interdit le polythéisme. Ces gens-là sont comme Abu Talib. Ces gens-là sont comme Abu Talib. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fourni de bien pour cette religion. Ils n'ont pas appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas montré aux gens la vérité. Ils l'ont caché des gens. Ils se sont tus de celle-ci et ont vécu avec les associateurs. Donc, pour résumer, avec cette règle, on comprend plusieurs choses. Premièrement, que celui qui connaît la vérité, mais qui après ne la suit pas, cela ne lui sera d'aucune utilité. Même s'il secourt la religion, comme l'a fait Abu Talib. Il a secouru la religion d'Allah. Il a secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté avec sur la fin, al-maja'a. Il a patienté avec al-muqata'a. Avec, quand il a été assiégé par les kuffars de Quraysh. Il a patienté avec tout ça. Et pourtant, il a refusé de dire la ilaha illallah et il est en enfer. Donc celui qui dit de l'islam, que c'est la vérité, mais qui après ne suit pas l'islam, sa parole ne lui est d'aucune utilité. Car sinon, le premier croyant aurait été Abu Talib. Également, celui maintenant qui a connu la vérité ne doit pas se taire, mais il doit appeler les gens à la vérité. Il doit montrer aux gens le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il doit interdire aux gens le pire des péchés, qui est le polythéisme. Et on s'arrête ici. On reprendra, inshallah, la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.